C'est un privilège de pouvoir être là, une joie en ce dimanche de Pentecôte où nous nous souvenons de ce don de l'Esprit qui a été fait à l'Église, où Jésus repartit au ciel quelques jours auparavant, envoie son Esprit sur les disciples rassemblés à Jérusalem. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, et une des choses que j'aime voir, c'est que le Saint-Esprit qui est donné aux disciples, aux 120, et puis ensuite à tous ceux qui s'attachent à Christ jusqu'à nous aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit nous permet de poursuivre l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus, qui n'est plus confinée au pays d'Israël, là où Jésus était géographiquement, mais qui se multiplie jusqu'aux extrémités de la terre, parce que nous sommes habités du Saint-Esprit et que nous pouvons, d'une manière, refléter et nous identifier à Christ et faire les mêmes œuvres que lui. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Je vais essayer ce matin d'en développer une en lien avec le thème de l'Apocalypse. Une des choses que l'Esprit crée, suscite en nous, et nous l'avons chanté ensemble, c'est ce désir de voir Jésus revenir. C'est ce désir de prier pour que Jésus revienne. Donc en fait, alors que c'est le dernier dimanche de notre série sur l'Apocalypse, nous allons sauter directement à la fin du livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre de l'Apocalypse, donc au dernier chapitre de la Bible, qui parle du retour de Christ. Ce qui se passe, en fait, c'est que le chapitre précédent, et j'étais obligé finalement de dire quelques mots, il parle de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. Nouvelle Jérusalem, c'est cette ville qui descend du ciel sur la terre, cette ville où il n'y aura pas besoin de lumière parce que Dieu sera la lumière pour tout le monde, dans cette ville où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance. Ça sera un temps absolument extraordinaire. Ça représente ce qui va se passer lorsque Jésus revient. Et sur la terre avec lui, nous pourrons louer, régner, être avec Christ. Et puis disons, au regard de l'actualité de ces deux dernières semaines, en pensant à cette Jérusalem qui vient où il n'y a plus de pleurs et de larmes, alors qu'aujourd'hui à Jérusalem, il y a beaucoup de pleurs et de larmes, avec ces deux dernières semaines, avec ce conflit qui a à nouveau éclaté, qui semble s'être calmé maintenant, que faisons-nous? Prions pour la paix de Jérusalem. Prions pour la paix que Dieu veut donner à chaque être humain, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine. Et c'est vrai que c'est atroce de voir toutes ces choses qu'on nous relate dans les médias, mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier pour la paix de Jérusalem. Et on réalise bien que prier pour la paix de Jérusalem, c'est prier pour que les gens reçoivent cette paix en Christ. Les efforts humains permettent des accalmies, comme il y a maintenant, mais on voit bien que tout le monde est limité à cause de la haine qui traverse les différentes communautés. Alors, nous réalisons que Jésus, le prince de la paix, est la source, est la solution. Et à nous de prier pour que chaque être humain dans ces contrées reçoive la paix de Christ. Je suis en contact avec une église au Mont-Carmel depuis plusieurs années. Nous avons eu l'occasion avec Christine de nous y rendre deux ou trois fois. Et puis c'est une communauté, une église qui nous a beaucoup touchés parce qu'ils essayent de mettre en pratique cette dimension de la paix de Christ dans le cœur des uns et des autres. Et ils vivent leur culte avec des chrétiens arabes, avec des juifs messianiques, avec d'autres communautés qui sont dans cette région au nord d'Haïfa, sur le mont Carmel. Et c'est beau de voir cette communauté qui se rassemble autour du prince de la paix. Et quand vous êtes dans un culte là-bas et que vous chantez des chants en anglais, en arabe et en hébreu, eh bien, ça prend un sens incroyable. Et cette semaine, ils ont lettre de nouvelles que j'ai reçues et ils ont parlé de différentes actions qu'ils font et que d'autres font là-bas. Et que nous n'entendons pas forcément dans nos médias des actions où des juifs et des arabes, des croyants mais aussi des non-croyants, se mettent ensemble pour lutter pour la paix, pour manifester pour la paix, pour se soutenir les uns les autres. Puis vendredi matin, alors que je préparais ce temps, je me disais, mais on n'entend rien de tout ça ici. Et puis vendredi soir, au téléjournal de la RTS, il y avait pendant 2-3 minutes, ils montraient un reportage d'action dans un des endroits du pays d'Israël où des ambulanciers sont deux par deux et il y a toujours une personne d'origine juive et une personne d'origine arabe. Elles sont dans les ambulances et ils vont secourir les différentes personnes, quelles qu'elles soient. Et je trouvais génial qu'ils disent cela dans nos nouvelles parce qu'on n'en a pas souvent des bonnes comme ça, mais c'est des sources d'espérance au milieu des drames. Et ça donne de l'espérance. Et nous pouvons porter cette espérance en priant pour la paix de Jérusalem. Et en attendant que cette nouvelle Jérusalem descende du ciel et qu'il y ait la paix ainsi pour toujours, parce que nous serons rassemblés avec Christ. Seigneur, nous te prions encore ce matin ensemble afin que ton esprit descende au milieu de nous. Mais nous prions encore afin que ton esprit descende aussi en particulier sur Jérusalem et tout ce qui l'entoure. Nous prions pour la paix. Que toi, Jésus, prince de paix, tu puisses continuer de te révéler, être révélé au milieu de toute cette haine et toutes ces difficultés. Et nous prions pour que les cœurs s'ouvrent à toi, que même dans le désespoir, il y ait des cris qui montent vers toi et que, Seigneur, dans ta compassion, tu puisses te révéler et apporter davantage de paix. Seigneur, nous prions aujourd'hui, ce jour de Pentecôte, que tu remplisses l'Église de ton esprit encore et tout à nouveau, et que tu nous aides à avancer à ta suite. Amen. À la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, nous voyons que l'Église, c'est-à-dire l'épouse est une image de l'Église, l'épouse et l'Esprit crient, viens, reviens Seigneur. Il y a cet appel où l'Esprit et l'Église se mettent ensemble pour prier afin que Jésus revienne. Et c'est une promesse biblique que Jésus va revenir. Et c'est vrai que peut-être nous ne parlons pas suffisamment de ce retour de Christ, parce que nous sommes souvent bien préoccupés par tout ce que nous avons à vivre ici sur la terre et comment être témoin de Christ sur la terre. Mais nous ne pouvons pas être témoin de Christ sur la terre sans imaginer, sans penser, sans réclamer le retour de Christ. Et j'avais envie de prendre une image pour vous parler de l'importance du retour de Christ. Je prends une chaise. Voilà, je pense que vous me verrez aussi, ceux qui sont à l'écran, restez, je vais m'asseoir. Cette chaise, elle me tient parce qu'il y a quatre pieds solides. Je peux me mettre comme ça, je ne tombe pas. Si on enlève une branche, j'aurais beaucoup plus de peine à rester en équilibre. S'il y en avait deux, encore moins. Nous avons besoin, dans notre foi, d'avoir quatre colonnes dans notre foi ou dans notre théologie. Et ces quatre colonnes, je vais les nommer ainsi, il s'agit de la création, de la chute, de la rédemption et du retour de Christ. 2C, 2R. Et si vous avez ces quatre points bien ancrés dans le sol, votre foi est solide. Si vous en manquez un, votre foi va être déséquilibrée. Et nous avons besoin ensemble, aux communautés, de pouvoir nous rappeler ces quatre éléments super importants. Si j'ai la création, ça veut dire que Dieu a créé la terre, a créé l'univers, a créé la terre, a créé les êtres humains, tous les animaux, et il a créé l'homme et la femme à son image. Et cela nous indique que Dieu est à l'origine de tout et qu'il nous a donné en tant qu'êtres humains une valeur, une dignité et une capacité d'être en lien avec lui, d'être en relation, alors que lui, ce Père, Fils et Saint-Esprit, est en relation. Le deuxième pied de la chaise, c'est la chute, ou pour le péché. Comme ça, ça fait 2C, 2R. Donc chute pour péché, c'est ce texte de Genèse 3 qui nous indique que malheureusement, l'homme et la femme ont voulu être indépendants de Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu, ils l'ont désobéi pour essayer d'en avoir plus. Malheureusement, le résultat, c'est qu'ils en ont eu moins. Et ils ont été séparés de Dieu à cause du péché qui est entré dans leur cœur et dans le cœur de l'homme et de l'humanité. Et ça a eu des conséquences atroces et néfastes dont nous souffrons aujourd'hui et dont nous avons déjà parlé en fait. Une séparation, une distance entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains entre eux, une distance avec la création, une pénibilité pour les différentes tâches que nous avons à faire. Et ça s'appelle le péché. Et malheureusement, nos vies sont marquées par le péché dès la naissance. Alors heureusement, il y a le troisième pied qui est là, qui est solide, qui s'appelle rédemption. Et la rédemption, eh bien, c'est le fait que Jésus donne sa vie pour que nous ayons le pardon des péchés, qui nous permet de revenir dans une relation avec Dieu et de pouvoir avoir cette dimension de l'espérance pour la vie éternelle. Nous sommes rachetés. La rédemption veut dire racheter, donc c'est laver du péché et entraîner dans la lumière de Christ. C'est le pardon que nous recevons. Et puis le quatrième point, eh bien c'est le retour de Christ, dont on va plus parler. Si le retour de Christ n'est pas une espérance dans notre foi, à quoi ça sert de vivre ici et de poursuivre notre chemin? Donc Jésus a dit qu'il allait revenir. Tout l'Ancien Testament annonce qu'il va venir, il est venu. Il y a plein d'autres paroles dans l'Ancien, mais aussi surtout beaucoup dans le Nouveau, qui disent qu'il va revenir. Autant nous avons pu croire que la première promesse s'accomplit, nous avons foi que la deuxième va s'accomplir et que Jésus revient. Si vous êtes assis sur une telle chaise, votre foi est équilibrée, va vous apporter une certaine solidité, consistance, et surtout va vous permettre de répondre à cette question: pourquoi est-ce que je suis là? Où vais-je? Je suis là pour témoigner de Christ parce que je suis créé par l'amour de Dieu, aimé de Dieu. Et malgré que le péché marque ma vie, eh bien, j'ai cette assurance que Jésus, mort sur la croix pour mes péchés, me donne la vie éternelle. Et que dans cette nouveauté de vie avec Christ, je vais en chemin, dans l'attente de son retour, pour vivre l'éternité avec lui. Et un jour, Jésus viendra, cette nouvelle Jérusalem sera donnée sur la terre et nous régnerons avec lui. Voilà notre espérance. Voilà ce qui nous anime. Voilà ce pourquoi nous pouvons prier et chanter « Reviens Seigneur !» Parce que lui va apporter la paix et il mettra fin à tout le mal qui malheureusement perdure et existe sur la terre. Remarquez que dans ces quatre points, piliers ou colonnes par rapport à cette chaise, le Saint-Esprit est présent partout. Le Saint-Esprit est là à la création. Il planait au-dessus des eaux et avec ces dieux, Père, Fils et Saint-Esprit qui ont créé le monde. Le Saint-Esprit est là à la rédemption. C'est lui qui était avec Jésus, qui vivait en Jésus et qui a manifesté avec Jésus tout ce qui s'est passé. Et lorsque Jésus remonte au ciel, il envoie ensuite à la Pentecôte l'Esprit. Et l'Esprit fait partie de cette œuvre de la rédemption en nous. Et il nous conduit dans les chemins de Jésus, dans les chemins de salut, de guérison, de restauration. Évidemment, le retour de Jésus, le quatrième point, c'est cet appel de l'Esprit et de l'Épouse « Reviens bientôt ». Alors lisons une partie du chapitre 22 de l'Apocalypse. Alors, où en suis-je? Verset 12. Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles du prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, tous les saints. La Bible se termine par cette pensée, cette image extraordinaire de l'épouse, l'Église, et du Saint-Esprit qui appelle Jésus et qui dit « Viens ». Et Jésus répond « Je viens bientôt ». Et ça fait du bien d'entendre cela et de voir que finalement tout concourt à cette réalité où Jésus revient sur la terre. Tout concourt ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on vivra dans quelques années, même si on ne comprend pas comment tout tient ensemble et comment les drames auxquels on peut faire face parfois vont permettre néanmoins à cette révélation de la gloire de Dieu d'arriver. Nous sommes poussés par l'Esprit à prier ensemble. Viens, Seigneur Jésus, reviens. Nous sommes l'épouse. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes l'épouse promise. Nous sommes dans l'attente de cet époux. Donc, en fait, tout nous conduit vers un mariage. Tout nous conduit vers un mariage. Alors, pour ceux qui sont déjà mariés, rappelez-vous comment vous attendiez votre mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui le souhaitent, je suis sûr qu'il y a une attente qui est là, pour beaucoup. Je me souviens très bien lorsque, même avant d'être engagé, fiancé avec Christine, bien avant, j'imaginais, j'espérais un jour me marier. J'espérais pouvoir vivre ma vie avec une personne que j'aimerais. J'avais ce désir, cette attente profonde, cette espérance qui m'animait, j'y pensais souvent, de temps en temps en tout cas. Et puis le jour où nous nous sommes engagés, Christine et moi, dans une relation, et puis après un certain temps, nous avons prévu, imaginé, préparé, choisi une date de mariage, l'intensité était encore plus grande, il y avait une espérance, il y avait un désir que cela se passe. C'était fort. En imaginant ce jour particulier, en tremblant parfois par rapport à ce jour, mais surtout en me réjouissant de pouvoir vivre avec Christine, avec cette femme que j'aime, que j'aimais, que j'avais envie, avec laquelle j'avais envie de pouvoir passer ma vie. Vous imaginez cette intensité qui est là, vous pouvez peut-être la ressentir. Et d'une certaine manière, c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre en attendant le retour de Christ, parce que ça sera ce mariage entre l'Église et Christ. Ça sera la consommation du royaume dans sa plénitude, dans son authenticité, dans son éternité. Oui, nous sommes appelés à nous réjouir parce que le mariage, un mariage arrive. Réjouissons-nous. Jésus revient bientôt. Il l'a dit dans de nombreux textes du Nouveau Testament. Tenez-vous prêts, car c'est au moment que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Dans Matthieu 24, 44. Dans Jean 14, 3, il dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Il leur a dit, « Je reviendrai. » Dès que Jésus est monté au ciel dans le récit des Actes, puis qu'il disparaît de la vue des disciples, il y a des anges qui apparaissent et qui disent aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, on redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Une autre promesse. Et ensuite, dans la suite du Nouveau Testament, de nombreuses fois, Paul et les autres parlent de ce retour. Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et il viendra pour être avec l'Église. Et il y a plein d'autres textes que je pourrais citer. L'espérance dominante de l'Église dans le Nouveau Testament est le retour de Jésus. Et cette espérance était tellement forte qu'on peut comprendre que même certains disciples qui ont marché avec Jésus s'attendaient à ce qu'il revienne alors qu'ils étaient encore vivants. C'est clair que pour eux, bientôt, c'était bientôt avant de mourir. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on dit toujours bientôt, même si Jésus semble par moments se faire attendre. Mais notre espérance ne change pas. La promesse de Jésus n'est pas modifiée parce que le temps prend du temps. Jésus revient bientôt. Prions, espérons et réjouissons-nous de cette réalité. Et parlons de Jésus autour de nous en attendant ce retour afin que d'autres puissent se réjouir avec nous. Je suis content qu'on puisse en parler de ce retour de Christ en prenant cette thématique de l'Apocalypse qui est la fin de toute chose. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours très souvent, et c'est vrai que je réalisais dans beaucoup des messages que j'ai le plaisir de pouvoir apporter, ben, c'est souvent une interpellation, un encouragement, une réflexion à la manière dont nous pouvons incarner la vie de Christ dans notre réalité d'aujourd'hui. Mais ça ne doit jamais être détaché de cette espérance du retour. Alors, soyons attentifs, faisons attention afin de pouvoir garder cette espérance vivante en nous. De ne pas trop nous complaire dans le présent, mais savoir que nous sommes, comme la Bible dit, des voyageurs sur la terre. C'est que notre réalité, elle ne se détermine pas juste par ce que nous vivons aujourd'hui, mais elle est en lien avec l'éternité. Dans le texte que nous avons lu d'Apocalypse 22, il est parlé de Jésus qui est l'alpha et l'oméga, on l'a vu dans le premier chapitre, il est le commencement à la fin, il est à la création, il est au retour. C'est extraordinaire, laissons-nous porter par cela. Nous sommes entre les deux et il nous tient et il nous aime. Jésus est en lien avec toute la révélation que nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Jésus vient alors qu'il a été promis, notamment à David, comme cette étoile brillante du matin. Il est en lien avec notre réalité. Et ensuite, il marche avec nous en tant qu'homme. Il avait un corps comme vous et moi. Et ensuite, il est retourné au ciel pour nous préparer, pour attendre ce moment où il va venir et descendre auprès de nous. Et puis, bien sûr, il y a cette image de l'esprit et de l'épouse dont j'ai déjà parlé, où le Saint-Esprit attend avec nous. Oui, c'est peut-être ça qu'il faut souligner. Le Saint-Esprit, il attend aussi. Le Saint-Esprit, il se réjouit de ce mariage entre Jésus et l'Église. Le Saint-Esprit, il est là en nous et il développe cette attente du retour. Ce n'est pas juste quelque chose de mécanique, mais lorsqu'on dit au Saint-Esprit de nous remplir, il le fait. Et il y a cette dimension de l'attente du retour. Parfois, on pense que le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier pour les malades, pour nous aider à discerner la volonté de Dieu, pour nous aider. Il y a plein de choses qui sont toutes justes, mais il y a aussi cette parcelle, cet apport important de prier pour le retour de Christ. Et au début d'Apocalypse 22, je n'ai pas lu, mais il parle d'un fleuve comme du cristal. Un fleuve qui apporte la guérison des nations. Un fleuve qui sort de cette ville qui est descendue du ciel. Et c'est l'abondance. C'est la restauration totale. Une eau qui est là, qui est donnée gratuitement, comme le texte nous le dit. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Amen, Jésus vient bientôt. Et on va encore le dire ensemble, rassurez-vous. Dans le texte, à la fin, il y a quand même deux avertissements importants qui sont donnés. Alors ça commence par une béatitude, heureux, que je retrouve. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur rhum. Qu'est-ce que cela signifie? On comprend par les autres textes de l'Apocalypse qu'il parle des gens qui lavent leur rhum, c'est-à-dire leur nature, leur être, dans le sang de Christ, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le pardon. Et c'est intéressant que c'est marqué « Heureux ceux qui lavent leur robe ». C'est une sorte de présent continu. On reste dans cette dimension d'être pardonné. Une fois qu'on a choisi Christ, nous sommes pardonnés et nous vivons avec le fait d'être pardonné. Et si par moment nous nous écartons ou nous commettons quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, nous lavons notre robe. C'est aussi le sens de la scène que nous partageons. Nous lavons notre robe dans le sang de Christ. Et ça, c'est une bénédiction et c'est pris comme une béatitude dans ce texte. Et puis tout à coup, le ton change. Et il est dit, dehors les chiens, les sorciers et ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça fait presque un choc. Là, on arrive à la fin du livre, tout à coup, qu'est-ce qui se passe encore? Mais je le vois comme un avertissement. C'est encore possible de s'écarter de pratiques néfastes, de pratiques mensongères, s'écarter de l'immoralité, de l'idolâtrie, de toutes choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Et il y a encore le choix jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, il est possible de choisir et de choisir de se mettre du côté de ceux qui lavent leur robe plutôt que de ceux qui pratiquent des choses qui sont contraires à Dieu. Alors, qui que vous soyez, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous entendez surtout ce qui est écrit dans ce livre, choisissez la vie. Choisissez d'avancer avec Christ et de laver votre cœur avec le pardon qui est offert par Jésus. Choisissez de résister et de refuser une vie immorale ou une vie mensongère. Si vous n'avez pas encore fait cette alliance avec Christ, si vous n'avez pas fait allégeance à Dieu, eh bien, il est temps encore aujourd'hui de le faire et de demander à Jésus de venir dans votre vie en recevant son pardon, en recevant sa grâce et en pouvant vivre dans une nouveauté qui permet d'aller dans cette dimension de l'éternité. Et il est précisé après que celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. Cette eau de la vie, c'est cette eau de l'Esprit. C'est cette eau qui représente Christ, qui représente le Saint-Esprit. Et c'est gratuit. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. Simplement, ouvre ton cœur et reçois cette eau de la vie qui est Christ. Reçois cette eau de la vie qui est l'Esprit. Et encore un dernier avertissement. Il est dit, n'ajoute rien, n'enlève rien à cette parole de la prophétie dans ce livre. Alors on peut le comprendre comme la prophétie dans ce livre de l'Apocalypse, mais on peut aussi le voir comme la prophétie, comme le livre de la Bible en entier. Et il est très clair, n'ajoute rien, n'enlève rien. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons tous prendre au sérieux. Il y a des gens, nous voyons dans l'histoire de l'Église, qui ont ajouté des livres, puis qui sont finalement petit à petit détournés de la foi. Il y en a qui enlèvent des choses. Puis nous allons dire, nous gardons la Bible en entier, oui. Puis en même temps, c'est par moments assez délicat de bien garder toute la parole. Pas seulement une partie, celle qui nous plaît, puis d'autres qui ne nous plaisent pas. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans la Bible qui sont liés à une culture, à la culture juive en particulier. Et il y a plein de choses qui sont dans la Bible, certaines recommandations que nous ne faisons pas parce que nous ne sommes pas dans cette culture. Et puis il y a plein de questions par moment où est-ce que c'est de l'ordre du culturel ou est-ce que c'est de l'ordre de la révélation de Dieu pour nous tous encore aujourd'hui. Et puis c'est là qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a parfois des interprétations concordantes ou contradictoires, ce n'est pas tout simple. Mais nous cheminons ensemble et nous nous épaulons les uns les autres pour comprendre toujours mieux comment recevoir cette parole révélée que Dieu nous a donnée et comment la vivre les uns avec les autres. Et nous avons besoin les uns des autres pour nous garder, pour nous préserver d'enlever ou d'ôter, d'enlever ou d'ajouter à la Bible. Alors, soutenons-nous. Et quand on voit qu'il y en a un ou l'autre peut-être qui oublie ou qui rajoute, exhortons-nous à faire attention et cherchons ensemble tout ce que Dieu a révélé dans la Bible. Le Saint-Esprit nous conduit dans ce chemin. Le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains, les auteurs des différents livres bibliques, est là aussi pour nous aider à comprendre et à mettre en pratique et à vivre selon la révélation de Dieu, à vivre selon Christ. J'aimerais terminer avec vous en faisant une déclaration ensemble et aussi en priant et en chantant. Comme à la fin de l'Apocalypse, on voit que tout le monde, c'est-à-dire l'Église, prie avec l'Esprit, « Seigneur, reviens bientôt. » Si tu peux mettre les slides, s'il te plaît, JB. Je vais lire ce qui est en noir et je vous invite à dire à bonne voix, derrière vos masques, ce qui est en rouge. Et c'est notre prière. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et l'esprit et l'épouse disent que celui qui entend ces paroles dise que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. » Et l'esprit et l'épouse disent « Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Que celui qui entend ces paroles dise « Amen. » C'est notre confession de foi ce matin. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que tu es là. Et oui, nous t'appelons, reviens. Nous t'attendons. Seigneur, continue d'imprimer dans nos cœurs par ton esprit cette espérance de l'attente. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies ce matin. Viens et remplis nos cœurs afin qu'ils s'alignent toujours plus sur le tien et qu'ils puissent prier avec toi dans l'attente de ce retour. Oui, Seigneur, aide-nous à prier selon ton cœur. Je vous propose, si vous le souhaitez, là où vous êtes, d'ouvrir vos bras comme un signe d'attente pour que l'Esprit en vous continue de vous animer et vous permette encore de prier, non seulement ce matin, mais peut-être demain, après-demain, et bien sûr dans le reste de votre vie. Priez pour que Jésus revienne bientôt. Priez pour que le salut du plus grand nombre soit opérant. Priez pour la paix et tant d'autres choses. Oui, Seigneur, remplis nos mains. Remplis-nous de toi maintenant. Fais ton œuvre en nous. Nous nous attendons à toi. Parce que tu es bon et tu donnes de bonnes choses. Merci pour ton esprit qui nous visite. Souffle, Esprit de Dieu, et descends sur nous. Une chose que j'aimerais partager, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une clé dans cette attente et dans cette prière pour le retour de Christ. Une clé pour quelques personnes, une ou plusieurs parmi nous, parmi vous, qui restent bloquées sur un événement douloureux ou compliqué dans leur existence, comme s'ils n'arrivent pas à le dépasser. Et là, Dieu Dieu, par son esprit, t'invite à regarder à lui et à prier pour son retour, à espérer son retour. Il t'invite ainsi à dépasser ce blocage. Il ne donne pas le pourquoi que tu attends, mais il t'invite à s'aligner sur ton cœur. Seigneur, j'aimerais encore te prier simplement et avec foi pour ces frères, ces sœurs en qui cette parole résonne. Seigneur, toi tu connais la profondeur des interrogations, des blessures, tu connais les pleurs qui ont été vécus par rapport à cet événement douloureux. Et tu n'y es pas, tu es attentif à cela, tu n'es pas indifférent. Merci parce que tu les invites à s'approcher de toi. Je prie ce matin qu'ils puissent comme lâcher leurs prérogatives d'avoir une réponse à leur pourquoi et qu'ils aient la force de se tourner pleinement vers toi. Par ton esprit, aide-les. Et dans le nom de Jésus, je veux briser ce qui les retient dans cet événement, ce qui les rend captifs. Je brise ces chaînes dans le nom puissant de Jésus et je demande que la révélation de ton esprit les conduise dans un moment où ils lâchent et se tournent pleinement vers toi. C'est toi qui fais cela, Seigneur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, c'est toi qui opères ton œuvre et qui nous tourne, qui nous attire à toi ce matin. Amen. Et on va chanter ensemble avec Elina.
Esprit de Dieu, glorifie Jésus, Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance. Puissance, Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus, Saint-Esprit, et Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Nous voulons. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Sur nous le manteau de ta gloire.